Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, une famille quitte l'Ukraine pour élire domicile dans un minuscule village de la Basse-Côte-Nord. Les citoyens en sont ravis.
Leur sourire est différent, leurs yeux sont différents, ils sont fatigués. C'est sûr qu'on sait qu'ils s'en vont vers l'inconnu.
On a beaucoup parlé la semaine dernière de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, mais cette bonne entente est-elle vraiment viable sans réformer ou abolir la loi canadienne sur les Indiens?
There's still a lot of healing that needs to happen and a lot of leadership skills that need to be developed before we get there.
Dolores Gosselin est une grand-mère et conteuse métisse de la Rivière-Rouge qui pratique le tambour de guérison.
Quand j'allais à l'école, ma mère et ma grand-mère nous ont pas dit qu'on était métisse parce que à l'école, les métisses, ils se faisaient abuser physiquement.
Des Acadiens s'expatrient à l'étranger pour tenir leur assemblée générale annuelle. Ils retrouvent à Miquelon, un petit village de Gaulois.
On est une nation sans frontières, une nation sans État, et donc ces relations-là, c'est là où on prend tout notre sens.
Et Yellowknife lorgne un projet immobilier de 12 étages.
Oui, on a besoin de logements abordables, mais on a aussi juste besoin de logements. J'entends beaucoup parler à propos de les gens qui ne peuvent pas déménager à Yellowknife. Ils ont du travail, mais on ne peut pas déménager parce qu'il n'y a pas de place pour vivre.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On ne pouvait pas vous parler la semaine dernière de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sans vous parler cette semaine de la loi canadienne sur les Indiens. Nombreux sont les individus, les analystes, le gouvernement des Premières Nations à remettre en question la pertinence de cette loi canadienne sur les Indiens. Une question demeure, doit-elle être réformée, voire abolie? Plusieurs diront que poser la question, c'est y répondre. Lors d'une entrevue réalisée par notre journaliste à Plamondon en Alberta, Vincent Lavoie, quelques jours avant l'arrivée du pape en Alberta en juillet dernier, Randy Lynn Nanemahu Candline lui avait partagé son avis et questionnement au sujet de cette loi si controversée. Les gouvernements des Premières Nations ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Réformer cette loi en profondeur n'est toujours pas acquis. Néanmoins, Randy Lynn Nanemahu Candline est pleine d'espoir pour les générations futures et elle espère pouvoir vivre cette réconciliation en toute vérité de son vivant. Les premières lignes de la loi sur les Indiens ont été rédigées et adoptées en 1876, au moment où le gouvernement colonial du Canada cherchait sans détour à assimiler à l'époque les Autochtones à cette nouvelle société euro-canadienne, si on peut dire. Et cette loi a, au fil des ans, été modifiée à de nombreuses reprises, d'abord en 1895, en 1920, en 1927, avant d'être encore amendée en 1951, en 1960, en 1985, en 2011 et en 2017 et finalement en 2019 pour rétablir certains droits. D'autres changements ont été apportés par le biais d'autres lois au cours des années 2000. Vincent Lavoie a rencontré Randy Lynn Nanemahu Candline et il revient aussi sur cette loi si particulière.
Pour souligner la Journée nationale de vérité et réconciliation vendredi dernier, nous nous posons aujourd'hui une question très simple. Est-ce que la loi sur les Indiens doit être abrogée? Randy Lynn Nanemahu Candline est une membre de la nation Cree-Bixton du nord de l'Alberta. Elle est très connue dans la région de Plamondon et la Clabiche pour son implication dans le processus de la réconciliation avec plusieurs participations à des célébrations de la Fête du Canada à la Journée de vérité et réconciliation, sans oublier les jours de la culture albertaine. Selon elle, le principal but des Premières Nations est l'indépendance envers le gouvernement fédéral.
To my understanding, when we signed treaties all those years ago, that they were meant to be for a few years and then these agreements could be revamped and revised to be more beneficial to both parties. But that never happened.
Toutefois, le système des pensionnats pour autochtones est venu troubler les cartes. Avec tous les traumatismes vécus, il est devenu plus difficile pour les Premières Nations de s'organiser pour revendiquer leurs droits. Quant à une refonte complète de la loi, Mme Candline estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
There's still a lot of healing that needs to happen and a lot of leadership skills that need to be developed before we get there.
Mme Candline ne voit toutefois pas de changement majeur dans l'avenir immédiat. Néanmoins, elle a beaucoup d'espoir pour les générations futures.
I do have hope because there's so many of our young people that are graduating with like law degrees, and this generation, this upcoming generation, they're going to do big, big things.
Elle espère pouvoir vivre ces changements de son vivant. Selon l'Encyclopédie canadienne, la loi sur les Indiens tire ses origines avant même la création du Canada en 1867. En fait, la province britannique du Canada crée en 1755 le premier ministère des Indiens pour gérer les affaires entre le gouvernement colonial et les peuples autochtones. En 1763, une proclamation royale du roi George III établit les bases selon lesquelles le gouvernement colonial et les Premières Nations interagissent. La proclamation garantit certains droits et permet au gouvernement de racheter puis posséder les terres traditionnelles autochtones. Elle permet aussi au gouvernement de négocier des traités de nation à nation. Toutefois, plusieurs aspects changent dès 1850. Le gouvernement établit les critères selon lesquels un individu est légalement connu comme un Indien. À partir de ce statut, qui existe toujours aujourd'hui, le gouvernement établit en 1857 une loi qui oblige les hommes de 21 ans et plus à parler et écrire soit l'anglais, soit le français, et de choisir un nom de famille approuvé par le gouvernement. Cette loi force aussi les Autochtones à renoncer à leur statut s'ils veulent posséder 50 acres de terre. La Constitution de 1867 confère au gouvernement canadien le plein pouvoir face aux Premières Nations. Deux ans plus tard, le gouvernement adopte l'Acte sur le droit de vote graduel qui supprime plusieurs droits des Premières Nations. Devant cela, cinq traités numérotés sont conclus en 1871, soit cinq ans avant l'adoption de la loi sur les Indiens. Les nations des cinq traités ne sont pas concernées par cette loi. Les Premières Nations sont mécontentes du système colonial. Seule une personne accepte de renoncer à son statut pour intégrer la société canadienne. Le gouvernement crée donc en 1876 la loi sur les Indiens pour les contrôler et les assimiler via le ministère des Affaires indiennes. Avec la base que fournit la loi, de nombreux aspects de la culture autochtone sont interdits. Les femmes perdent leur statut si elles marient un homme non autochtone dès 1880. Quatre ans plus tard, sous la pression des missionnaires catholiques, des cérémonies et des danses traditionnelles sont interdites. Le même jour, le 19 avril, les pensionnats sont créés. Un an plus tard, les Autochtones ne peuvent plus sortir de leur réserve. Un premier amendement de la loi sur les Indiens en 1895 interdit toute danse ou cérémonie. La danse est interdite à l'extérieur des réserves en 1914, avant de l'être complètement en 1925. Les droits juridiques des Autochtones sont restreints en 1927, alors que le recours aux avocats ou de déposer des revendications territoriales sont interdits, sauf si le gouvernement fédéral l'autorise. Il faut attendre les années 50 avant que certains droits soient rétablis. Les femmes ont le droit de vote aux élections de bande et certaines cérémonies sont autorisées. Les règlements quant au statut indien des femmes, eux, sont inchangés. En fait, ce ne sera pas chose faite avant 1985. Les Autochtones obtiennent en 1960 le droit de vote aux élections fédérales sans perdre leur statut d'Indien. En 1969, le Livre blanc du gouvernement canadien propose de rendre les Autochtones égaux aux citoyens canadiens et d'abolir plusieurs documents légaux, dont la loi sur les Indiens. Les critiques sont nombreuses. On dénonce surtout le fait que le gouvernement fédéral se déresponsabilise en déléguant ses responsabilités historiques aux provinces avec lesquelles les Premières Nations n'ont jamais entretenu de relations, quelque chose considéré comme un retour à la case départ. Le Livre rouge qui défend les droits ancestraux est déposé par le chef Cree Harold Cardinal. Il est rejeté par le gouvernement canadien qui annule son Livre blanc peu de temps après. En 1975, ce que plusieurs considèrent comme le premier traité moderne est signé au Québec. L'entente, conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec et deux de ses filiales, puis le Grand Conseil des Cris du Québec et l'Association des Inuits du Nord du Québec, donne une certaine autonomie aux Autochtones du Québec. Au cours des années 80, le Canada perd une cause devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. L'année suivante, l'Assemblée des Premières Nations est créée et la Constitution est rapatriée. Par la même occasion, un amendement reconnaît les droits issus des traités. Les gouvernements fédéral et provinciaux sont obligés de consulter les Premières Nations avant de prendre des mesures pouvant affecter les droits des Autochtones. la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2010 force le gouvernement canadien à agir, malgré le fait qu'elle ne sera ratifiée qu'en 2016. Des litiges fondés sur la discrimination sexuelle sont adressés en 2011 et en 2016, la Cour suprême ajoute les Métis et les Inuits dans la définition légale d'un Indien. La loi sur les Indiens sera ensuite amendée en 2017 et en 2019 pour corriger les litiges basés sur le sexe, établissant donc une égalité entre les droits des femmes et les droits des hommes. Malgré tout cela, encore aujourd'hui, le ministre des Affaires autochtones demeure la figure d'autorité supérieure dans tout changement législatif au sein des Premières Nations. Lors d'une entrevue en fin d'année 2021, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré ce qu'a dit Randy Lynn Nenemaru Candline, la loi sur les Indiens est là pour rester, mais les temps changent et les progrès continuent. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
Vincent Lavoie s'est largement inspiré des faits cités dans l'Encyclopédie canadienne qu'on vous invite à consulter.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La véritable guérison pour les peuples autochtones, on le devine, n'est pas acquise. Raconter pour guérir, c'est le devoir que s'est donné Dolores Gosselin, une grand-mère métisse et conteuse francophone de la Rivière-Rouge au Manitoba. Comme la plupart des aînés métisses, elle participe activement à l'enseignement et à la sauvegarde de sa culture. Son arme de prédilection est un petit et un grand tambour, ainsi que les histoires qui l'ont amené à fonder Drumming for Healing. Dans le cadre de la journée du T-shirt orange de la semaine dernière, en souvenir des enfants autochtones, les peuples autochtones du Canada se rassemblent pour raconter leurs expériences, revenir sur leur histoire et honorer leurs morts et leurs ancêtres. Dolores Gosselin est une conteuse qui pratique l'art du tambour de guérison et elle officie des cérémonies traditionnelles. Et pour que son savoir ancestral ne se perde pas, elle se déplace au gré des besoins pour instruire et bénir son audience de ses perles de sagesse. De Saint-Boniface au Manitoba, Aurélie Forsen nous a ramené le court extrait qui suit.
Quand je raconte une histoire, à la fin, il y a toujours un enseignement. Et puis, j'espère que les gens et les enfants, surtout, se souviennent de l'enseignement à cause de l'histoire. Je pense que c'est plus facile de se souvenir de quelque chose quand on peut le référer à une histoire ou à un animal ou à un oiseau. Si on le fait avec les enfants, ben ils vont grandir avec un esprit plus ouvert, j'espère, puis un cœur plus acceptant de différentes réalités. À chaque fois que je fais du tambour, parce que j'ai un gros tambour, c'est comme le battement de mon cœur, puis qu'il faut que j'écoute mon cœur. Puis nous autres, les femmes, quand on fait du tambour, c'est comme le battement de cœur de la terre, puis on dit à la terre qu'on l'aime, puis qu'on va en prendre soin. Puis je suis convaincue que pour avoir la paix, il faut retourner à la terre. Quand j'allais à l'école, ma mère puis ma grand-mère nous ont pas dit qu'on était métisses parce que à l'école, les métisses, ils se faisaient abuser physiquement. J'ai su que j'étais métisse quand j'avais 40 ans. Alors, j'ai étudié, j'ai rencontré des grand-mères autochtones qui m'ont aidée. Puis c'est là que j'en suis venue à faire du tambour. Puis au début, comme métisse, j'étais perturbée par tout ce qui s'est passé. Et puis, c'est avec le tambour, finalement, que je suis venue à bout de trouver la paix intérieure. Puis, je pense que la paix et la réconciliation, ça se fait, ça commence à l'intérieur de chaque personne. Puis, on a la difficulté à partager cette paix si on ne l'a pas en dedans de nous.
C'était Dolores Gosselin, une conteuse qui pratique l'art du tambour de guérison. La Société nationale de l'Acadie a tenu sa première assemblée générale annuelle le 2 octobre dernier en territoire étranger. Elle s'est rendue à Saint-Pierre-et-Miquelon, en France, une première depuis la fondation de la Société nationale de l'Acadie en 1881. Un moment historique, explique le président de la SNA, Martin Théberge, qui parle d'une visite importante qui aura permis de tisser et de resserrer les liens qu'entretiennent entre eux Saint-Pierre-et-Miquelon et les provinces canadiennes de l'Atlantique. Les Acadiens, victimes de ce que l'on nomme le grand déménagement, d'exil forcé, ni plus ni moins, nous constatons, nous dit M. Théberge, que les racines acadiennes sont bien établies dans l'archipel et qu'il est important de l'inclure dans notre mission et dans nos actions futures. Alors, situé à environ 20 km de Terre-Neuve seulement, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la France. Mais les habitants de Miquelon, un village isolé de 600 personnes, se réclament être des Acadiens français. Le reportage de Sébastien Caron, qui est non seulement dans le vent, mais en compagnie du président de la SNA, Martin Théberge.
La Société nationale de l'Acadie s'est rendue en France, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y rencontrer ses partenaires et membres, mais aussi pour y tenir son Assemblée générale annuelle ce dimanche 2 octobre. C'était la première Assemblée générale annuelle tenue à l'extérieur du Canada depuis la fondation même de la SNA en 1881. Une manière pour son président Martin Théberge de montrer que l'Acadie est partout. Nous lui avons tendu notre micro à l'issue de cette AGA et de cette belle fin de semaine pour la SNA. Le travail a été productif, mais tout le monde semblait fatigué.
On est épuisé, vraiment épuisé, mais c'est bon signe. C'est bon signe parce qu'on est venu à l'invitation d'un de nos membres, Miquelon Culture et Patrimoine, mais on en a profité pour jumeler tout plein d'autres dossiers, tout plein d'autres raisons pour être ici, c'est-à-dire qu'il y a la coopération régionale, le travail que l'on fait pour entre autres le développement économique avec Saint-Pierre-et-Miquelon, avec la collectivité territoriale, mais aussi en partenariat avec l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. On en a profité au niveau de la jeunesse, au niveau des échanges économiques aussi. On en a profité puisque bon, on est en Acadie de la France ici pour renouer des liens. Ça a été un programme hyper chargé, mais qui porte fruit et qui va continuer à fructifier au cours des prochaines années, j'en doute pas.
On peut se demander ce qui justifie d'avoir répondu à cette invitation de Miquelon Culture et Patrimoine et d'avoir fait le choix de tenir cette Assemblée Générale en dehors du Canada. Quel est le lien entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la SNA?
Vous savez, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a toujours été les cousins français d'Amérique du Nord avec qui on avait plus d'affinités. Ce sont aussi des gens, bien qu'on ait en principe en France, ce sont des gens qui ont des descendances acadiennes très fortes, qui viennent de Beaubassin à l'origine. Donc, il y a ce lien-là qui est déjà très fort. Mais en plus de ça, il y a une historique, oui, il y a une symbolique extrêmement forte, c'est que on est pour la première fois depuis 1881, on tient notre Assemblée générale annuelle à l'extérieur du Canada. Le monument de l'Odyssée acadienne, comme on le retrouve sur le front de mer à Halifax, comme on le retrouve à Summerside, comme on le retrouve à Dieppe, par exemple, le premier qui a été posé à l'extérieur du Canada a été posé ici, à Miquelon. Et cette symbolique-là, elle est forte et elle est importante parce que c'est effectivement probablement avec une des communautés où nos liens sont les plus forts, entre autres en raison de la proximité géographique, mais pour d'autres raisons aussi. Donc c'était tout à fait opportun, et tant mieux si on a eu l'invitation de notre membre, c'était opportun qu'on soit ici et puis qu'on puisse effectivement être là et participer et contribuer et apprendre à connaître les gens de la place.
Quels sont les projets importants à venir pour la Société nationale de l'Acadie? Réponse avec son président, Martin Théberge.
On vient tout juste d'adopter le 20 septembre dernier une nouvelle planification stratégique qui parle énormément des liens entre l'Acadie du Canada Atlantique et l'Acadie d'ailleurs, c'est-à-dire le Québec, c'est-à-dire les Îles-de-la-Madeleine, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi la France, les États-Unis, entre autres avec les États de la Nouvelle-Angleterre, avec la Louisiane. Donc, nos membres ont parlé énormément de l'interprovincial, du national et de l'international. Ce travail-là doit se poursuivre parce que c'est comme ça que l'Acadie prend tout son sens. C'est comme ça que l'Acadie pourra prospérer. On est une nation sans frontières, une nation sans État, et donc ces relations-là, c'est là où on prend tout notre sens. Ça sera définitivement une priorité. L'autre priorité, à très courte échéance, c'est de réviser notre structure pour s'assurer qu'elle est toujours actuelle, qu'elle répond toujours aux besoins de la société et qu'elle répond toujours à la communauté et au peuple que l'on représente. Et donc ça, ce sera un chantier qui sera fait dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis finalement, puisque je parlais de interprovincial, national et et internationale, mais il y a toute la question d'entente aussi. On a une entente France-Acadie qui est présentement en renouvellement. On a une entente avec la Wallonie-Bruxelles en Belgique, une entente avec le Québec. Mais il y a d'autres ententes qu'on pourrait peut-être explorer, par exemple avec des organismes nationaux au niveau jeunesse, au niveau culture, au niveau de la représentation des communautés francophones et acadiennes, comme la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Donc, il y a peut-être des ententes qui pourraient découler de cette révision-là de notre structure. Question d'être bien connecté, de se créer un réseau fort qui nous permettra de mieux avancer.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
D'autres exilés ukrainiens, cette fois, foulent leur nouvelle terre d'accueil. Une famille de réfugiés ukrainiens y lie officiellement domicile dans le minuscule village d'une centaine d'habitants de Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord. Pour souligner l'événement, le drapeau ukrainien a été accroché au cœur du village de Tête-à-la-Baleine le jour de l'arrivée de cette famille meurtrie par la guerre et l'exil. Une famille de trois enfants, accompagnée de leur mère et d'une amie, qui trouvent leur point de chute finale après un long périple qui les aura menés de la Pologne à Montréal en passant par l'Estrie et Rimouski. Leur père a été laissé derrière, imaginez. Ils sont arrivés au village après avoir passé 4 jours sur le bateau, sur le Bella des Gagnés au départ de Rimouski pour rejoindre l'autre rive, le Bella des Gagnés qui a accosté avec eux au quai fédéral du village. Les démarches ont été longues et intenses pour le couple de Baleinois, Yvonne Fuentes et Michael Lambert, qui ont coordonné la venue de cette famille durant plusieurs mois. Mais les sourires étaient larges lorsque la rencontre officielle a eu lieu sur le quai. Une résidente du village, Madeleine Le Breton, qui revenait, elle, de Sept-Îles, a pu avoir quelques échanges avec les membres de la famille durant le trajet qu'elle a fait entre Rimouski et Tête-à-la-Baleine. Pénélope Clermont nous parle du périple vécu par ces nouveaux Québécois.
J'ai embarqué à Sept-Îles et j'ai été les saluer. Ils ne comprennent pas du tout le français. Ouais. Par contre, l'anglais, c'est très sommaire. Et quand il y a trop de gens autour, ils observent tellement qu'ils ne sont pas attentifs à ce, mm-hmm. quand on leur parle. Et notre conversation est limitée. On parle par signes, puis ils comprennent mieux. Puis comme Natasha Kwan, il aurait pu débarquer, mais ils m'ont dit qu'il avait mal à la tête en faisant des signes. Puis qu'il avait besoin de se reposer.
Très certainement.
Sûrement, oui.
Puis qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de cette famille-là?
Ce matin, en les voyant, là, j'ai été leur donner un petit coup de main, puis les bagages, puis il y a des gens du bateau qui sont venus aussi leur donner un coup de main. Et leur sourire est différent, leurs yeux sont différents, ils sont fatigués. C'est sûr qu'on sait qu'ils s'en vont vers l'inconnu. Alors, ils ont une petite interrogation dans le visage, mais... leur sourire était différent.
Ce n'est pas un petit périple auquel ont dû prendre part les 3 enfants ukrainiens de 9, 12 et 14 ans, ainsi que leur mère et son amie. Arrivés à Montréal de la Pologne un peu avant la mi-septembre, ils ont dû s'astreindre à une quarantaine de 2 semaines qu'ils ont réalisée en Estrie chez des connaissances à Yvonne Fuentes et Michael Lambert. Ils ont ensuite pris la route vers Rimouski pour prendre le bateau le lundi. Évidemment, pour la centaine d'habitants à Tête-à-la-Baleine, l'arrivée de 5 nouvelles personnes au village est un événement en soi. Gilles Monger, président du comité local de Tête-à-la-Baleine, voit donc d'un bon œil leur venue au village et espère, au-delà de tout, que leur intégration se déroule bien.
Pour la communauté, si bien. J'espère que l'intégration va se faire aussi bien. Je pense que les enfants semblaient... Ils ont voyagé avec moi, puis leur réaction en arrivant au presbytère, ils semblaient très heureux d'être arrivés. Puis j'espère que ça va être très positif, là. On va leur donner un délai, là. Faut pas se leurrer, là. Faut quand même... imaginons... on a seulement à s'imaginer partir d'ici et se retrouver là-bas. Ça prend un certain temps. Probablement que l'intégration la plus facile va se faire pour les enfants à l'école avec les autres enfants.
À cet effet, les jeunes participeront dès cet après-midi à une activité d'accueil par le biais d'un cours d'art avec les élèves de l'école Gabrielle Dionne. Par la suite, une intégration progressive à l'école suivra et l'objectif premier sera bien sûr leur francisation, comme me l'a confirmé par courriel la directrice de l'école, Karine Dubé. Sur ce plan d'ailleurs, le Centre de services scolaires du littoral a récemment affiché un poste d'enseignant en francisation à l'école Gabrielle Dionne pour répondre aux besoins des jeunes. À peine arrivés à Tête à la Baleine, les nouveaux citoyens du village ont déjà eu droit à beaucoup de bienveillance de la part de la communauté, comme en témoigne le président du comité local, Gilles Monger.
Les gens du village sont très généreux en voulant collaborer pour leur arrivée, leur faciliter l'arrivée et leur donner des choses. Puis c'est déjà dans les gestes des gens. Même si au presbytère, sans que les gens regardent ce qu'il y avait là, ce qu'il y avait besoin, il est arrivé des grosses couvertures, des douillettes, puis je sais qu'il va arriver d'autres choses d'un autre village, là, de quelqu'un du village qui envoie des choses pour le petit gars, puis il y a un élan de générosité.
Cet élan de générosité s'observe également en dehors des frontières du village, à commencer par la campagne de sociofinancement lancée par Yvonne Fuentes et Michael Lambert, laquelle a permis d'amasser un peu moins de 10 000 $ au cours de l'été. Selon un article de macotenord.com, l'ancien maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, fournira pour sa part un skidoo à la famille, un outil plus qu'utile pour traverser les hivers en Basse-Côte-Nord. On apprend qu'un membre de l'équipage du Bella des Gagnés, dont le père est ukrainien, a laissé une enveloppe pour la famille avec un mot de bienvenue et de l'argent à leur remettre à leur embarquement sur le bateau. Devant ce geste, d'autres collègues ont contribué financièrement. Enfin, au village même, plusieurs résidents ont déposé des denrées et autres produits utiles dans une boîte prévue à cet effet au magasin général. Certains y sont même allés de la confection de petits plats. Tout ça pour dire à cette famille, bienvenue chez vous.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et il est temps de jeter un coup d'œil à ce qui se passe tout au nord du pays. On se tourne vers les territoires du Nord-Ouest où la ville de Yellowknife vient de vendre un lot, le lot 50-50, pour la modique somme $1, nous apprend notre nouveau correspondant là-bas, Raphaël Hamel. La compagnie immobilière Hardway Lodging, qui avait fait une proposition d'achat aussi loin qu'en février 2019, a indiqué qu'elle pourrait y construire un bâtiment de 12 étages et de 180 unités de logement à occupation mixte, comprenant des espaces commerciaux au premier niveau. La ville de Yellowknife essaie de vendre ce lot depuis 10 ans, dit-elle, mais n'avait trouvé aucun preneur jusqu'en 2019. Un reportage de Raphaël Hamel, qui est en compagnie de la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty.
Le conseil municipal de la ville de Yellowknife a voté en faveur de la vente du lot 50-50. La compagnie immobilière Holloway Lodging, qui avait fait une proposition d'achat en février 2019, a indiqué qu'elle pourrait construire un bâtiment de 12 étages de 180 unités de logement avec des espaces pour des commerces au premier étage. La ville de Yellowknife essaie de vendre cet espace depuis 10 ans, mais n'avait trouvé aucun preneur jusqu'à 2019. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, explique les détails et les conditions de cet arrangement avec la compagnie immobilière.
On veut négocier avec eux et donc on n'a pas mis des conditions strictes pour l'administration. Mais une de les conditions, c'est qu'on veut que des places dans l'édifice sont des logements abordable et ce sera bon pour la revitalisation de la centre-ville.
Madame Alty espère que ces nouveaux logements apporteront de nouveaux clients aux commerçants de la ville.
Parce que s'il y a plus que 200 personnes qui habitent ici maintenant à le lot 50-50, ce sera 200 plus de customers pour les business autour.
Le bâtiment situé au coin de la 49e rue de l'avenue Franklin serait l'une des solutions à la pénurie de logements et au manque de main-d'œuvre de Yellowknife, affirme-t-elle.
Oui, on a besoin de logements abordables, mais on a aussi juste besoin de logements. J'entends beaucoup parler à propos des gens qui ne peuvent pas déménager à Yellowknife. Ils ont du travail, mais on ne peut pas déménager parce qu'il n'y a pas de place pour vivre.
C'était vos informations IGL avec Raphaël Hamel.
Eh bien, c'est là-dessus que se conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Nos collaborateurs cette semaine sont Sébastien Caron, Aurélie Forsen, Vincent Lavoie, Raphaël Hamel et Pénélope Clermont. Notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici au micro, à l'animation et à la réalisation. Écoutez-nous partout et rendez-vous sur canada-info pour y entendre une foule de topos en deux et même trois langues. À bientôt, merci d'avoir été là.